Bonjour. Didier, bonjour. Florie, Louis, bonjour. Une quatrième personne, mais je ne saurais pas te dire c'est qui pour l'instant. Vendredi 25 mars à tous. Jean-Gilbert Rosanier, bonjour. Alors, un vendredi pluvieux aujourd'hui. Et un week-end de pluvieux aussi. Bonjour à mon père et à ma mère. Deux rendez-vous aujourd'hui, donc ce matin, vous êtes déjà connectés, et ce soir à 19h. Dieu voulant, parce que Daphné finit plus tard aujourd'hui, donc dépendamment du trafic et tout ça, on va voir si on arrive à temps. Bonjour Guy, que Dieu te bénisse. Je le rappellerai quand même tout à l'heure, juste il y a une petite possibilité que je ne sois pas là ce soir. Bonjour Pascal, soyez béni. Il a plu toute la nuit, il pleut toute la journée aujourd'hui. Et une bonne partie du week-end aussi. En tout cas, selon les agences météorologiques. Bonjour à la belle-mère. Shalom, shalom. Hermana Susana, que Dios me la bendiga a usted y a su esposo también. Alors aujourd'hui, c'est journée de jeûne et de prière. On va tout de même terminer l'enseignement. Ça va être une combinaison des deux aujourd'hui. Ce matin, disons, j'ai un dernier point à aborder avec vous concernant le texte de cette semaine, puis on passera à la prière. Hermano Miguel. Miguel Galas. Que Dios me le bendiga. Marie-Marthe, bonjour. Si Marjolaine est près de toi, nous la saluons aussi. Gracias, hermana Susana. Thérèse, bonjour. Huit heures 25, Thérèse. 8h25. Et quand ton nom apparaît, je ne sais pas si tu es connecté déjà, s'il y a un délai entre ta connexion et ce qui apparaît sur mon écran. Donc ton nom est apparu à 8h25. Bonjour à Jocelyne Gosselin, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Denise de Laval. Ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas fait, donc bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous regardent via la page Internet de l'Église ou qui vous connectez directement via un moteur de recherche. Vos noms n'apparaissent pas, mais on est content de vous avoir. Vous me faites parfois des petits messages pour me dire que vous étiez là. Vous faites parfois des petits commentaires en personne pour me dire que vous êtes là. Alors, merci d'être fidèle au poste. Bonjour Janine, que Dieu vous bénisse. Content de vous avoir avec nous ce matin. J'espère que vous allez bien. Louise, Michel, bonjour. Julie, bonjour. Salutations à votre époux aussi, Julie. Qui nous regarde de Saint-Mathieu de Mont-Carmel de dans la région entre Shawinigan et Trois-Rivières. Merci Louise. Francine, bonjour. Nathalie, bonjour. Bonjour à ton époux et à la petite famille aussi. Denise Gérard, bonjour. Merci Janine. Que le Seigneur vous bénisse vous aussi. Merci Nathalie. Myriam Donald, dans la belle région d'Ottawa, bonjour. Ottawa est une très jolie ville. En tout cas, de ce que j'en ai vu les quelques fois où je l'ai traversée, Ottawa est une jolie ville. Je sais qu'ils sont plutôt à Orléans. Je n'ai pas été à Orléans, mais Ottawa est une jolie ville. Daniel, salut. Bonne journée à toi aussi. Alors, juste avant qu'on ne prie, on vous rappelle notre rendez-vous ce soir à 19h, mais je rappelle encore, il se pourrait que je sois absent. Daphné finit plus tard aujourd'hui, quelques déplacements à faire en fin de journée, donc... Il se pourrait que je ne sois pas là. Si je ne suis pas là, je vous aviserai avec un message sur Facebook. À prime abord, on devrait être là. J'ai pratiqué quelques cantiques ce matin avec la guitare. Donc, on devrait, j'espère, être capable de diffuser ce soir avec Daphné. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Alors prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons encore d'être rassemblés pour élever nos voix devant ton trône de grâce et implorer, Seigneur, ta bénédiction, ta miséricorde sur nous. On demande, Seigneur, que tu prennes contrôle des prochaines minutes, que ce soit à travers ce que nous dirons, à travers ce que nous penserons, à travers ce que nous ferons, que notre être entier puisse élever ton nom et proclamer qu'encore aujourd'hui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'encore aujourd'hui, tu es véritablement, véridiquement, sans l'ombre d'un doute, présent parmi ton peuple. Ta parole nous dit que tu es là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Alors nous n'avons aucun doute, Seigneur, que tu es présent parmi nous. En toute chose, Seigneur, que ton nom soit élevé, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Et en toute chose, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté parfaite. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux, merveilleux nom que tu portes, le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, on divise notre temps en trois sections. Donc, on va faire un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, on va relire le texte qui nous a servi de méditation tout au long de cette semaine. Et puis, par la suite, on va aborder le dernier point que je n'ai pas eu le temps de partager ni dimanche, ni cette semaine. Donc, on va aborder ce dernier point. Puis, on passera au temps de prière et d'intercession. Vous savez qu'on est vendredi, et puis le vendredi, c'est une journée qu'on a décrétée pour la congrégation comme une journée de jeûne et de prière. Quand je dis décrété, c'est un grand mot. On a suggéré aux gens de prendre du temps dans la prière et dans le jeûne le vendredi. Mais bien sûr, on le rappelle, c'est si vous le voulez, parce qu'on ne jeûne pas à contre-cœur. On jeûne avec un cœur disposé. Il y a bien des années, j'ai redécouvert le jeûne, ce qui m'a permis de faire des périodes de jeûne assez prolongées. Mais dans ces périodes de jeûne, ma pensée quant au jeûne a changé. C'était plus une espèce de sacrifice où je me faisais violence à moi-même. Non, je considère maintenant le jeûne comme un temps de qualité que je prends avec le Seigneur. Donc, ce temps de qualité doit être riche en moments d'intimité avec lui, en moments parfois de silence, mais surtout un moment agréable avec notre Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas jeûner à contre-cœur. On le fait avec une bonne disposition. Donc, journée de jeûne et de prière pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent aussi. Il y a des gens qui ont des conditions de santé qui les empêchent de jeûner. Et on comprend tout à fait ça, et croyez-moi, le Seigneur le comprend aussi. Donc, on fait comme on peut et comme on en est disposé. Donc, journée de jeûne et de prière ce matin, et cette journée qui se conclura, si on est en onde, ce soir à 19h. Alors, je relis pour vous le texte qu'on a étudié cette semaine. Je mets mes lunettes, ce qui trahit un peu le fait que je prends de l'âge. Alors, la Bible nous dit dans Jean au chapitre 11, au verset 21, on lit du verset 21 au verset 39, « Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, sa sœur, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. » Alors voici ce que nous avons étudié cette semaine. On a étudié les dangers à ne pas reconnaître la présence de Jésus à nos côtés. Danger à ne pas reconnaître, à ne pas attester, à ne pas statuer comme une véracité absolue que Jésus est vraiment, vraiment, vraiment présent à nos côtés. On a vu que, premièrement, ne pas reconnaître la présence de Jésus, c'est contredire ce que la Bible elle-même nous dit et ce que la Bible affirme concernant Jésus. Jésus, avant de partir, va dire à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin. » Alors, lorsque je demande au Seigneur, « Où es-tu? » Ben, le Seigneur est là. La plupart du temps, lorsqu'on dit « Où es-tu? », c'est qu'on fait un peu comme Marthe et Marie, en disant « Seigneur, tu n'es pas là » ou « Seigneur, tu n'étais pas là » ou « Seigneur, tu étais absent » ou « Tu étais en retard. » Notre Dieu, si nous croyons à la parole de Dieu, et c'est là le danger de ne pas reconnaître la présence de Dieu à nos côtés, c'est d'arriver à un point où nous défaisons ce que la parole de Dieu nous a enseigné sur l'omniprésence de Dieu tout d'abord, sur l'omniscience de Dieu aussi, sur l'éternité même de Dieu. Donc Dieu est en tout endroit, en tout lieu, en tout temps, et il connaît toutes choses. Donc quand je ne reconnais pas la présence de Dieu à mes côtés, c'est un premier pas qui m'éloigne de la parole de Dieu. Le deuxième point qu'on a vu, c'est que la bénédiction parfois devient plus importante même que celui qui bénit. On préfère voir les actions de Dieu que d'en magnifier la personne. Ici, on a pris pour exemple, Marthe qui va dire à Jésus, « Bon, tu étais absent, tu n'étais pas là, tu es en retard, mon frère est mort à cause de toi, mais maintenant je sais que comme tu es arrivé, tout ce que tu demanderas à Dieu, ben, il va te l'accorder. » Et assurément, elle pensait et parlait au sujet d'une éventuelle résurrection de son frère. Alors la présence de Jésus ne la contentait pas. C'était son action et sa bénédiction qu'elle voulait. Bénédiction dans le tangible, pas une bénédiction simplement qui reste un peu dans l'appellation ou dans la proclamation, mais une bénédiction tangible. Elle voulait voir son frère ressuscité. Et nous, parfois, on regarde le Seigneur un peu comme la vache à lait, un peu comme le pourvoyeur de bonbons. Et si le lait ne vient plus, si les bonbons ne coulent plus, on commence à se demander est-ce que Dieu nous aime vraiment, et on commence à être maugréant par rapport à Dieu, à être frustré par rapport à Dieu. Donc, dans un tel cas, le deuxième danger de ne pas reconnaître la présence de Dieu à sa juste valeur, c'est que la bénédiction de Dieu devient plus importante que sa simple présence à mes côtés. Troisième point, c'est lorsque Marie et Marthe vont dire, mais Marthe plutôt va dire à Jésus, « Oui, oui, je sais, il va ressusciter au dernier jour. » À un moment donné, on n'est même plus à même de saisir la bénédiction qui vient avec le fait d'avoir Christ à nos côtés. On est soit tellement habitué à cette notion au niveau verbiage, on est parfois tellement accoutumé à dire Jésus est là que ça en perd son impact, que ça en perd sa puissance. Et ce faisant, ben on vient à espérer davantage la grande bénédiction, entre guillemets grande, ou la spectaculaire bénédiction qui arrive avec la vie éternelle, plutôt que de tout simplement être béni, comblé, ému par la présence même de Dieu. Donc la manifestation de la présence de Christ devient une espérance pour demain. Éventuellement, un jour, il arrivera que je serai avec Jésus pour l'éternité, alors que nous sommes déjà avec Jésus en présentiel, en permanence, ici-bas sur terre. Mais certains d'entre nous ne s'en réjouissent plus, espérant tout simplement le jour où les pleurs seront finis, les larmes seront finies, les craintes seront finies, les maladies seront finies et nous serons avec lui pour l'éternité. Donc il y a des gens qui poussent à outrance d'aimer la venue de Christ, qui poussent à outrance, je pense, ou qui dévient l'amour qu'on doit porter sur l'avènement de Christ en étant déçus ou ne comptant pas la bénédiction déjà présente, déjà accessible d'avoir Christ à nos côtés. Le quatrième point qu'on a vu, c'est au verset 27, lorsque Marthe, Jésus va lui dire qu'il est la résurrection et la vie, que celui qui croit en lui, même s'il était mort, il reviendrait à la vie, et que il était donc la résurrection. Il demande à Marthe, crois-tu cela? Et Marthe va lui dire, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui avait été promis. Mais on se rend compte que dans cette histoire, dans l'attitude de Marthe, dans les actions qu'elle pose, dans les phrases qu'elle prononce, elle croit, oui, mais c'est une croyance strictement intellectuelle. C'est comme si ça reste au niveau de la tête et ça ne descend pas au niveau du cœur. Elle a une connaissance intellectuelle de ce qu'est la foi, mais elle n'en a pas la vibrance, l'aspect vivifiant de la présence de Dieu et du fait de savoir que Christ est à nos côtés. La question pour nous aujourd'hui, c'est à savoir, lorsque je m'arrête pour me rappeler que Christ est vraiment à mes côtés, quelle est mon attitude? Quelle est ma réaction? Est-ce que je m'émerveille encore de savoir que le roi des rois est à mes côtés ou ça devient une platitude, une banalité? Avoir le roi à mes côtés, mais s'il ne parle pas, avoir le roi à mes côtés, mais s'il n'intervient pas comme je veux, c'est tout simplement une perte de temps pour certains. Donc, quelle est notre attitude avec le fait de savoir qu'il est à nos côtés? Alors, est-ce que la foi est strictement une connaissance intellectuelle où elle vient mettre en ébullition notre être tout entier? Et hier, on a parlé de l'attitude de Marthe envers Marie. Cette occasion où, une fois qu'elle a fini sa conversation avec Jésus, la Bible nous dit qu'elle va appeler secrètement, Marthe va appeler secrètement Marie en lui disant, « Le Maître est ici, il te demande. » Alors qu'en aucune occasion, on ne voit Jésus qui demande à ce que Marie vienne. Donc, on peut penser effectivement que c'est un certain mensonge et que c'est pour ça que Marthe va faire appeler sa sœur en secret, puisque quand la sœur l'apprend, elle quitte la maison puis les gens la suivent. Donc, si ça avait été de venir en secret, ben, elle lui aurait dit « Jésus te demande, mais tu dois venir toute seule ». Non, elle se pointe avec les visiteurs à la maison qui sont aussi endeuillés et qui sont attristés par la mort de Lazare. Et quand Marie arrive, étonnamment, elle a les mêmes mots que Marthe qui dit « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort ». Et à ceci, on peut voir qu'il y a eu entre les deux sœurs communication, conversation au sujet de la mort de Lazare, mais plus encore, au sujet du retard de Jésus et au sujet du fait que si Jésus avait été là, leur frère ne serait pas mort. Donc c'est en raison de l'absence, du retard, de la nonchalance de Jésus que Lazare est mort. Toutes les deux vont faire ce reproche à Jésus. Seigneur, tu es arrivé en retard. C'est pas maintenant que tu devais arriver. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que s'exprime la bouche. Et assurément, l'une et l'autre, lorsqu'elles arrivent près de Jésus, elles ont tellement cultivé cette atmosphère, elles ont tellement cultivé le sujet entre elles. Comment se fait-il que le maître n'est pas encore arrivé alors qu'on lui a dit que notre frère est malade et il ne s'est toujours pas pointé? Et là, Jésus arrive 4 jours après. Donc, elles ont eu un minimum de 4, 5, 6 jours peut-être avant que Jésus n'arrive. Elles ont eu le temps de discuter entre elles et de ruminer et de couver cette rancune, cette rancœur, cette amertume, ce désagrément. Et lorsqu'elles se pointent, l'une et l'autre vont spontanément dire à Jésus, tu es en retard. Et dans cette pensée-là, c'était de se rappeler que lorsque je ne reconnais pas la présence de Dieu à mes côtés, la frustration peut s'emparer de moi et de, à l'instar de ce qui s'est passé dans le cas de Marthe et Marie, nous pouvons non seulement faire en sorte que la frustration s'empare de nous, mais que la frustration puisse aussi se répandre autour de nous. Cet exemple nous montre que l'une et l'autre se sont encouragées dans cette insatisfaction par rapport à Dieu. Alors, lorsque je ne suis pas satisfait de la présence de Christ à mes côtés, lorsque je ne suis pas satisfait des conséquences de la présence de Christ à mes côtés parce que pas assez palpable, pas assez tangible à mes yeux, s'il est vraiment là, je veux qu'il guérisse, s'il est vraiment là, je veux qu'il fasse comme je lui demande, je suis dans cette attitude, je vais avoir une frustration et cette frustration, je risque de la répandre autour de moi. Et voilà un autre danger de ne pas reconnaître à sa juste valeur et à sa juste portée la présence de Christ à nous, autour de nous. Dernier point qu'on n'a pas vu cette semaine, au verset 39, Jésus va dire, une fois qu'il est arrivé près du tombeau, « ôtez la pierre ». Et Marthe intervient. Et Marthe lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Seigneur, mon frère est déjà mort. Ça fait 4 jours, le corps est en train de se décomposer, la putréfaction est en train de gagner ce corps. Si tu ouvres le tombeau, si tu fais rouler la pierre, ça ne sera pas un spectacle agréable. » C'est étonnant, parce qu'il y a quelques instants, Jésus lui a demandé « Est-ce que tu crois ?» Et elle a dit « Oui ». Et à ceci, on peut donc croire, ou on peut donc confirmer que la croyance de Marthe quant à la capacité de Jésus de ressusciter était une croyance tout simplement intellectuelle et pas viscérale. C'était une foi qui était proclamée. Marthe disait « Oui, oui, je crois. » Mais dans le fin fond, lorsqu'elle est confrontée au pas de foi de rouler la pierre, là elle dit au Seigneur, « Mais non, mais Seigneur, mon frère est déjà mort depuis 4 jours. » La réalité de sa foi est illustrée, est amenée en lumière lorsque confrontée à un pas de foi. Lorsque je ne reconnais pas la présence de Dieu à mes côtés, je vais aussi avoir très certainement une foi proclamée, mais une foi qui est soumise à la logique humaine simplement. Alors qu'à l'occasion, la foi va nous imposer des pas stratégiques, va nous imposer des pas un peu dans le vide, qui ne sont pas dans le vide foncièrement parce qu'on sait que Jésus est là et qu'il contrôle toute chose, mais qui, aux yeux de l'homme, sont un peu comme marcher dans le vide. Et lorsque je parle d'avoir une foi qui est au-delà de la proclamation, qui est aussi au-delà d'une soumission à la logique humaine. Je ne parle pas nécessairement de faire des actes héroïques, mais je parle notamment d'avoir confiance lorsque Jésus dit « Je suis là ». Dans l'histoire de Jésus qui traverse la tempête alors qu'il est couché au bout du bateau, au bout de la barque, la seule chose qu'il a demandé à ses disciples, c'est « Ayez foi, croyez que je vous ai dit qu'on passe de l'autre bord ». Mais les disciples rendus la moitié de la traversée vont réveiller Jésus en disant « Mais est-ce que tu n'as pas peur qu'on coule? Est-ce que tu ne crains pas qu'on meure? » Jésus leur dit « Mais vous avez manqué de foi. » Il va leur dire « Homme de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? » Ce que Jésus blâme ou le blâme que Jésus envoie, c'est sur leur manque de foi. Le fait de rester calme pendant la tempête. Et voilà pourquoi régulièrement je dis, il y a des choses sur lesquelles on doit statuer avant que la tempête n'arrive. Il y a des choses qu'on doit arrêter dans notre esprit, dans notre âme, dans notre vie, comme une vérité absolue et immuable. Et parmi cela, c'est Jésus est vraiment ici. Si j'essaie de me convaincre de la présence de Jésus lorsque la tempête arrive, mon esprit risque d'être tellement tiraillé à droite et à gauche, en train d'être tourbillonné par le vent qui souffle, que je risque de ne pas être capable d'arrêter mes pensées. Il y a des choses pour lesquelles on doit se préparer à l'avance. Se dire, qu'est-ce qui se passe si j'arrive dans une tempête? Voilà ce que David faisait. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il faisait deux choses en disant cette phrase. Il disait, j'ai l'expérience que lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais de surcroît, il disait, si éventuellement, j'ai aussi et encore à passer par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. La vallée, on ne sait pas quand elle va arriver. La tempête, contrairement à ce qu'on voit régulièrement dans nos climats, on voit un petit nuage poindre à l'horizon, puis un deuxième nuage, puis un troisième, puis le ciel se couvre, puis le vent se met à souffler, puis éventuellement il y a deux, trois gouttes qui tombent, et enfin il y a des trombes d'eau qui tombent du ciel. Il y a des tempêtes dans lesquelles on peut se préparer graduellement. Il y en a certaines qui fondent sur nous un peu à l'improviste. Et ces tempêtes-là sont probablement les plus dangereuses. Parce que si je ne suis pas bien ancré sur la parole de Dieu, si je ne suis pas bien ancré sur les vérités absolues de Dieu, bien à ce moment-là, je peux être ballotté par les flots. Il est important pour toi et pour moi d'en venir maintenant à une conclusion. Christ est vraiment, 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 vraiment à mes côtés. Et parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment à mes côtés, je reste calme même dans la tempête. Vous voyez, que Jésus soit capable de calmer la tempête, c'est une chose. Mais ça n'enlève pas la responsabilité aux disciples de rester calmes pendant cette tempête. L'attitude qu'ils auraient dû avoir, si on se fie au blâme que Jésus leur donne d'avoir manqué de foi, l'attitude qu'ils auraient dû avoir, c'est « Que nous a dit Jésus ?» Il nous a dit « Passons de l'autre bord. » Est-ce qu'il nous a dit qu'on allait tout simplement faire une traversée à moitié et couler ? Non, il nous a dit qu'on va passer jusqu'à l'autre rive. Donc, parce qu'il a dit que nous allons passer jusqu'à l'autre rive, continuons notre chemin. Oui, on est ballotté. Oui, on est mouillé par la pluie. Oui, on est mouillé par les vagues qui se lèvent et qui semblent remplir la barque. Mais Jésus nous a dit que nous allons passer de l'autre bord. Alors, je ne doute pas que je vais arriver à bon port. Il y a des gens qui veulent trop manifester ou qui pensent que la seule manifestation de la foi, c'est de faire tomber du feu du ciel, de faire venir un tremblement de terre, de faire venir un vent impétueux. Non, parfois, la foi se manifeste tout simplement par un grand calme, par une sérénité, par cette paix qui surpasse l'entendement. Je crois qu'il y a beaucoup plus à tirer honneur d'être capable de garder son calme. Et je ne dis pas de rester silencieux, puis à l'intérieur, on est en train de maugréer, puis à l'intérieur, on est en train de flipper totalement. Non, je parle d'une véritable paix, d'un véritable calme qui dit, de toute manière, si je coule, ben je me retrouve avec Christ pour l'éternité. Alors, quoi qu'il arrive, c'est bon pour moi. Je ne veux pas retourner trop souvent sur mon histoire, mais c'est cette prière que j'ai faite le lendemain du diagnostic de cancer où je disais à Dieu, regarde Seigneur, c'est correct. Si tu veux me ramener à la maison, c'est correct. Si tu veux me garder ici, c'est correct. Je veux que ce soit clair entre toi et moi, Seigneur. C'est correct. Avoir la foi qui est active, c'est dire au Seigneur, regarde Seigneur, je te fais confiance. Peu importe ce qui se passe, peu importe que les problèmes s'accumulent, je te fais confiance. Et cette foi ne répond plus maintenant à la logique humaine. Cette foi répond maintenant à la pensée, au plan et à la volonté de Dieu. Amen. Alors, je pense qu'on a été plus long que j'aurais cru, mais je pense que c'était profitable de revoir un peu les enseignements de cette semaine et de terminer avec celui-ci pour aujourd'hui. Alors, permettez-moi de prier. Pour conclure, Seigneur, combien ta parole est riche. On a vu un angle de l'histoire de la résurrection de Lazare que peut-être on n'avait pas l'habitude d'étudier. Au lieu de parler simplement de ce miracle que tu as opéré, de cette résurrection qui s'est opérée sous la puissance de tes mots, on a vu un autre angle. Celui à travers la vie de Marthe. Et on n'est pas ici pour taper sur la tête de Marthe parce qu'on se rend compte que très régulièrement, on a exactement la même attitude. Cette attitude où on se défait de ta parole, on s'éloigne de ta parole, on remet en question des vérités absolues de ta parole. Tu nous dis que tu es là à tout instant et on demande malgré tout, où es-tu? Où étais-tu? Seigneur, quand on a vu à travers la vie de Marthe ces occasions aussi, Seigneur, où nos caprices d'enfants, nos caprices de gamins puérils qui disent, Seigneur, je ne croirai que tu m'aimes que si tu fais ce que je te demande de faire. Et à ce moment-là, assurément, la bénédiction devient plus importante que ta simple présence à nos côtés. Seigneur, c'est déshonorant à ton égard. C'est un manque d'égard envers toi, de te dire, est-ce que tu as amené les cadeaux? Est-ce que les cadeaux sont là? Si les cadeaux ne sont pas là, ta présence nous intéresse moins. C'est l'attitude toutefois, Seigneur, qu'on aborde ou qu'on affiche régulièrement. Pardon, Seigneur. Pardon aussi, Seigneur, de ne pas profiter de ta douce présence aujourd'hui même. On proclame souvent que nous serons pour l'éternité avec toi. Mais ça a déjà commencé ici-bas, mais on n'en profite pas. On le regarde un peu comme pour acquis, on le regarde un peu comme pour moins important ou moins précieux que ce que serait l'éternité en ta présence. Étant sauvés, nous sommes déjà, maintenant même, dans ta présence pour toujours. Alors merci Seigneur de nous rappeler à l'ordre et pardonne-nous Seigneur d'avoir dénigré ta présence, d'avoir méprisé ta présence. Pardon aussi, Seigneur, pour toutes ces occasions où la foi est devenue un fait intellectuel strictement, une connaissance, une expérience intellectuelle plutôt qu'une expérience vivante de marcher avec toi et de savoir que tu es là. On a besoin, Seigneur, que notre foi soit vivifiée. Revigorer, que notre foi, Seigneur, devienne vibrante ou redevienne vibrante et vivante. Pardon, Seigneur, pour toutes ces occasions où la frustration du fait que tu n'as pas répondu dans le temps qui était nôtre, dans les aspects que nous voulions, selon nos pensées, selon nos désirs, selon notre compréhension de ce que requérait la situation et on a été frustré. Pardon, Seigneur, d'avoir couvé cette frustration Pardon, Seigneur, tout simplement d'avoir été frustré à ton égard. Et encore, Seigneur, pardon d'avoir répandu cette frustration, cette insatisfaction autour de nous. Au lieu de nous édifier les uns les autres à travers des psaumes, des cantiques, des actions de grâce, on a plutôt multiplié les critiques, les plaintes, les complaintes. Et on s'est contaminé les uns les autres. Et ce faisant, Seigneur, on a peut-être même agi à créer la division entre certains de tes enfants et toi, entre une partie de ton peuple et toi, parce qu'on a semé, Seigneur, du doute, on a semé, Seigneur, de la critique et le flegme, Seigneur, où en fait l'amertume est venue à sortir par nos bouches. Pardon, Seigneur. Pardon aussi, Seigneur, de ce qu'on a proclamé croire, mais dans le fin fond, on doutait. De toutes ces fois où on a affiché ce que devrait être un croyant, mais au fin fond de nous, on était hypocrite. On disait « oui, je crois », mais dans le fin fond, on ne croyait pas. Toutes ces occasions, on disait « oui », on récitait un tas de versets sans croire véritablement à ces versets. Notre foi était devenue tout simplement une foi basé sur la logique humaine et non pas basé sur ta volonté. Alors Seigneur, ce matin, on finit cette prière en te disant, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté. On te donne tout droit, on te donne, Seigneur, liberté d'action dans nos vies comme tu le désires, dans ton temps, dans ta méthode, dans ta portée et pour les raisons qui sont les tiennes. Nous ne voulons en aucun cas, Seigneur, te dire quoi faire. Nous ne voulons en aucun cas même tenter d'influencer ce que tu vas faire. Pour nous, tout ce que tu fais est parfait. Et nous nous soumettons à cette perfection de ta volonté. Alors aujourd'hui, pour ma vie, Seigneur, fais comme il te plaît. Fais comme tu sais qu'il est parfait de faire. Non pas selon mes plans, non pas selon ma logique, non pas selon ma pensée, mais selon ta pensée à toi. Si tu veux me surprendre, surprends-moi. Si tu veux ne pas bouger dans tel ou tel dossier, parce que tu sais, Seigneur, qu'il est approprié d'attendre, qu'il en soit ainsi. Si tu veux même refuser, Seigneur, une demande que je pourrais te faire, parce que tu sais que ce n'est pas la bonne voie pour moi, merci, Seigneur, je ne veux pas me positionner comme Ézéchias qui te demande d'ajouter ceci ou cela et que ce que tu ajouterais parce que tu te plierais à mes demandes et à mes aspirations personnelles viendrait plutôt servir à ma perte qu'à mon salut. Alors je prie Seigneur dans tous les aspects de ma vie, dans toutes les facettes de mon existence, je prie tel que tu nous l'as enseigné, que ta volonté soit faite, la tienne, et non pas la nôtre. Et je scelle cette prière dans le nom précieux de mon Seigneur, de mon Sauveur, de mon Roi, de mon Maître absolu, Christ Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce soir on devrait se retrouver à 19h, mais si j'avais un contretemps, sachez que je vous en ai déjà avisé. Donc, peu de minutes avant 19h, si je devais être absent, je mettrai donc un mot, je ferai mettre un mot sur Facebook pour vous en aviser. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée dans la présence véridique, véritable, absolue de Jésus. N'attendons pas l'éternité pour vivre en sa présence, nous sommes déjà dans la présence de Jésus. Véritablement. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.